connaissez peut-être cette petite histoire qui a valu à Mère Teresa sa réputation de sainteté. Dans l'institution qu'elle dirigeait à Calcutta, où étaient reçus les plus pauvres des plus pauvres, les intouchables, ceux qui, malades et mourants, étaient abandonnés. Dans cette institution, eh bien, on vivait comme on pouvait, des dons faits par les habitants. Et voilà qu'un jour, dans le grenier, il ne reste qu'une petite poignée de grains. Et les sœurs tout affolées d'aller voir Mère Teresa en lui disant « Mais nous n'aurons pas de quoi tenir la journée. C'est impossible. » Voilà, vent de panique dans la communauté. Comment allons-nous faire pour donner à manger à tous ces hommes et ces femmes venus mendier leur nourriture? Et Mère Teresa de dire « Eh bien, mes filles, une seule solution, à genoux devant le Saint-Sacrement. » Voilà, on aurait pu penser, eh bien, mes filles, prenez des paniers et allez donc voir les riches de la ville pour leur demander de quoi faire. Vous savez, un peu à la manière des petites sœurs des pauvres, hein, faire la quête. Non, non. Voilà, mes filles, à genoux devant le Saint-Sacrement. C'est un peu étonnant. Et pourtant, c'est ce qu'on appelle la foi en la providence. Et l'évangile de ce jour nous met un petit peu face à cela, hein, puisque Jésus, voilà, eh bien, va célébrer comme les prémices de l'Eucharistie. Hein, on retrouve les mêmes mots qui sont dits à la consécration. Voilà, devant une foule, hein, qui est là, qui est venue l'écouter, eh bien, il va accomplir ce miracle qu'on appelle de la multiplication des pains, sans oublier les poissons. Oui, croire en la providence. Ça nous paraît un petit peu difficile à nous qui baignons dans un monde cartésien. Et ce n'est pas la moindre des difficultés quand nous discutons avec des gens qui ne connaissent pas le christianisme. Mais qu'est-ce que c'est que cette foi en la providence? Voilà. Il y a trois attitudes, hein, première chose à pointer, trois attitudes, voilà, qu'on peut avoir vis-à-vis de la foi en la providence. La première attitude, allez, on va dire que c'est l'attitude de la cigale. Voilà. Dieu pourvoira. Là, pour le coup, on ne fait rien. Hein. On croit, hein, vraiment que Dieu, hein, viendra de toute façon à notre aide. Et on va même entretenir d'une certaine manière l'imprévoyance. Ça, ce n'est pas forcément l'attitude préconisée par le Seigneur, l'attitude de la cigale. Hein. Celui qui, d'une certaine manière, va mettre à l'épreuve le Seigneur. Si tu es si fort que cela, eh bien, vas-y, accomplis ton miracle. Hein. Donne-nous ce qu'il nous faut. La deuxième attitude, c'est, allez, celle qui est la plus commune, celle qu'on pourrait résumer par le dicton « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Ça, c'est plutôt l'attitude de la fourmi ou l'attitude de Philippe qui, bien réaliste, commence à compter le nombre de journées de salaire qu'il va falloir débourser pour donner à manger à tout ce monde. Et puis, il va falloir trouver le boulanger, hein, qui donnera autant de pain pour nourrir tous ces hommes. Et puis, la troisième attitude, c'est celle d'André. Je n'ai pas grand-chose et je ne suis rien, mais toi, tu peux tout, Seigneur. Je n'ai pas grand-chose et je ne suis rien, mais toi, tu peux tout, Seigneur. Oui, c'est peut-être cette attitude-là, l'attitude d'André, qui remarque ce jeune garçon et qui pense qu'avec peu de choses, le Seigneur peut faire de grandes choses. Et deuxième point, deuxième élément spirituel que nous pouvons tirer de cet évangile, c'est justement ce que nous demande le Seigneur. Celui qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi, disait saint Augustin. Eh bien, on peut appliquer la même chose à la foi en la providence. Oui. Dieu ne part jamais de rien. En tout cas, il ne fait jamais les choses sans que nous coopérions d'une manière ou d'une autre. Tout simplement parce que Dieu n'est pas un magicien. Jésus n'est pas un magicien. Il ne fait pas apparaître d'un coup de baguette magique des pains et des poissons par myriades. Non. Jésus s'appuie toujours sur ce qui existe. Jésus s'appuie toujours sur le réel. Par exemple, dans l'Évangile, il ne fait pas repousser le bras d'un manchot. Vous ne voyez pas ça dans l'Évangile. Le Seigneur s'appuie toujours sur ce qui existe. On pourrait penser à cette maxime d'un jésuite hongrois du XVIIe siècle, alors, une maxime qu'on a souvent attribuée à saint Ignace. Voilà. C'est « Prie de telle sorte que tout dépend de toi et rien de Dieu, mais agis de telle manière que tout dépend de Dieu et rien de toi. » Alors, vous allez me dire, c'est un peu paradoxal, si on reprend cette maxime. Très simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que nous avons à mettre en œuvre tout ce qui est en notre pouvoir, avec foi, et in fine, laisser au Seigneur faire ce qu'il voudra bien de ces efforts que nous ferons. C'est rien à voir avec cette tendance spirituelle qu'on appelle le néopélagianisme, qui est vouloir notre salut à la force du poignet, ou vouloir les choses à la force du poignet. Donc, il s'agit de faire tout ce qu'on peut, et puis ensuite, d'avoir foi en l'action du Seigneur. Et notamment, avoir foi dans nos faiblesses. Vous voyez, Paul, lorsqu'il écrit sa lettre aux Éphésiens, il est en prison. Il est en prison, il ne peut rien. C'est le degré zéro de l'évangélisation. Il ne peut pas fonder de communauté, il ne peut pas prêcher l'Évangile. Et pourtant, c'est en prison, dans sa faiblesse, que Paul va trouver le ressort pour écrire ses lettres qui nous sont parvenues jusqu'à ce jour et qui sont pour nous comme des guides de lecture de l'Évangile. Voilà, je peux tout en celui qui me fortifie, ou bien, ta grâce me suffit, c'est ce que Paul entend du Seigneur, ou bien c'est lorsque je suis faible, alors je suis fort. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. Donc, croyons que le Seigneur, avec le peu que nous pouvons donner, y compris avec nos faiblesses, peut faire passer quelque chose. J'irais même jusqu'à dire, même avec notre péché, le Seigneur peut faire quelque chose. Vous le savez bien, vous qui expérimentez le sacrement de la réconciliation. Lorsque dans le dialogue avec le prêtre, parfois une parole va vous toucher. Elle va venir justement, mettre en lumière ce péché qui vous taraude, et en même temps, c'est dans ce péché que peut se trouver une voie de salut. Oui, le Seigneur est capable de faire de grandes choses avec de petites choses, y compris avec de mauvaises choses. Pour peu que nous ayons la volonté de nous convertir et de le laisser faire. Troisième chose à attirer de l'Évangile, donc les attitudes de la Providence, celles qu'il faut mettre en lumière, je n'ai pas grand-chose, je ne suis rien, mais tu peux tout, Seigneur. Le Seigneur ne fait jamais rien sans notre coopération. Troisième chose, la Providence est un don, est un don. Oui, nous sommes les mains de Dieu, la grâce agit à travers nous. Et justement, nous sommes faits pour nous donner. Nous sommes faits pour nous donner. Quand j'étais adolescent, on prenait au caté, dans les temps forts, un chant qui disait, voilà, Dieu a besoin de tes mains pour bâtir le monde. Dieu a besoin de toi, donne-lui tes mains, donne-toi. C'est exactement ça. Dieu a besoin de nous pour que sa grâce soit diffusée. Dieu a besoin de notre temps. Dieu a besoin aussi de notre argent. Dieu a besoin de tout ce qui nous constitue pour faire avancer, la grâce, pour que le royaume advienne. Nous devons le croire. Et cette attitude du don de soi, elle n'est possible que liée à la gratuité. Regardons un peu ce qui se passe pour Élisée. Élisée qui reçoit gratuitement, pourrait-on dire, providentiellement, de l'orge et du grain frais. Et pourtant, il n'hésite pas à redonner ce qu'il a reçu. Alors, on sent bien derrière les serviteurs comment donner cela à 100 personnes. Il y a implicitement comment donner cela à 100 personnes de telle manière qu'il en reste un petit peu pour nous. Élisée dit, donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. On mangera et il en restera. Voilà. N'ayons pas peur de nous donner aux pauvres, à celui qui a besoin, à notre frère qui tend la main pour mendier sa nourriture. Voilà. N'ayons pas peur de donner. Si nous le faisons avec un cœur droit, et voilà, si nous le faisons généreusement, il en restera toujours pour nous. Et enfin, pensons bien que ces gestes très concrets de solidarité, matérielle par exemple, donc tous ces biens terrestres dont nous disposons et que nous avons à partager largement, eh bien cette attitude de don, de partage des biens terrestres nous prépare déjà à ce que nous vivrons au ciel. Et je pense là à la collecte. Voilà. En faisant un bon usage des biens terrestres, nous nous préparons déjà à recevoir les dons célestes que le Seigneur voudra bien nous partager. Oui, l'essentiel est bien là. Rechercher les dons célestes. Rappelons-nous ce que le Seigneur nous dit, notamment, je pense, au chapitre 6 de l'Évangile selon saint Matthieu. Ne vous souciez pas de votre vêtement et de votre nourriture. Dieu vous donnera en abondance, pour peu que vous recherchiez le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné de surcroît. Voilà. Donc, pas de mise à l'épreuve du Seigneur, de fait, mais donnez largement. Donnons largement de notre énergie, de notre temps, de nos biens. Oui, donnons-nous nous-mêmes, offrons-nous dans cette Eucharistie et nous verrons alors la grâce du Seigneur surabonder pour nous et pour nos frères. Amen.